Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Ça faisait longtemps.
Eh oui, c'est ça, une petite pause et nous revoilà.
Nous revoilà, oui. Aujourd'hui, c'est la rentrée pour Asialogie, chers auditeurs et auditrices. Nous vous avions laissé au Vietnam lors de notre dernière mission en juillet. Et ben, on est resté au Vietnam, en fait.
Eh oui, quelle rentrée. Hein,
voilà, on est resté dans cette belle région du monde. Année olympique oblige, on va parler sport. Et on a invité Kevin Fleury, champion de Muay Thai, coach sportif, grand voyageur et héros de la vie quotidienne, je dirais. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Voilà pourquoi je disais quelle rentrée.
Quelle rentrée. Bienvenue à Radio Alpa, Kevin. Et bienvenue dans Asialogie. Alors merci d'être venu pour nous raconter votre expérience de sportif et nous expliquer comment le sport vous a emmené au bout du monde et a fait de vous un globe-trotteur. Alors, pour commencer, qui êtes-vous Kevin et d'où venez-vous ?
Eh ben moi je suis originaire du Mans.
Originaire du Mans.
Commencé la boxe ici au Mans et puis...
Il y a combien de temps ?
Alors j'ai commencé la boxe il y a 14 ans maintenant.
D'accord.
Et ça fait une quinzaine d'années que je pratique.
D'accord, et vous êtes Manceau ?
Je suis Manceau à la base.
Alors, Manceau à la base, d'accord, mais en fait, avant de parler de votre voyage au Vietnam, expliquez-nous un petit peu, parce que moi je suis novice, le Muay Thai, quelle différence avec le kickboxing, la boxe française, qu'est-ce que c'est ? Moi j'ai tout à apprendre.
Eh bien, le Muay Thai, c'est un art martial avec une culture donc, qui vient de Thaïlande, un art martial avec beaucoup de valeurs, de respect, etc. Et donc c'est un art martial qui est très complet, où on peut utiliser beaucoup de techniques de frappe avec les poings, les coudes, les genoux et les tibias.
D'accord. Et alors, du coup, au Mans, c'est pas forcément là qu'on le découvre le plus naturellement. Comment vous avez découvert ce sport, vous ? À quel âge vous avez commencé à pratiquer ?
Eh ben moi, j'ai commencé la boxe en fait à 12 ans. Donc j'ai fait deux ans de boxe anglaise.
La boxe anglaise.
Boxe anglaise.
D'accord,
voilà. J'ai commencé par la boxe anglaise étant petit.
Ouais.
Donc j'ai fait deux ans. Après bon bah j'ai arrêté. Hein, voilà, j'ai grandi un peu au quartier, la débauche, les copains. Mm-hmm. Je me suis remis vraiment plus sérieusement. J'ai découvert le Muay Thai à 21 ans.
D'accord.
Ensuite, donc c'était au Mans. J'ai poussé la porte d'un club ici qui s'appelait à l'époque LGMT, donc Le Goff Gym Muay Thai.
Oui.
Et c'est ici même que j'ai rencontré mon coach Jackie Le Goff, qui lui au départ m'a pas forcément s'est pas tourné vers moi, mais moi j'étais quelqu'un de très déterminé, j'avais vraiment cette envie de changer de vie.
Mm-hmm.
Et ce que je faisais, c'est que j'ai accroché tout de suite au Muay Thai parce que comme détendait un peu bagarreur à la base,
ouais.
C'était vraiment quelque chose qui m'a plu tout de suite.
Okay.
Donc quand le coach disait 10 pompes, j'en faisais 20. Quand il disait 10 jambes, j'en faisais 20. Enfin, je faisais tout en double de plus que les autres parce que vraiment, j'aimais ça. Et puis un beau jour, mon coach, il m'a pris au pao. Je m'en rappellerai toujours, c'est un samedi matin. Et puis j'ai envoyé une jambe dans les pao.
C'est quoi les pao ?
Les pao, en fait, c'est des cibles où on peut frapper dedans.
D'accord.
Et
D'accord, comme au taekwondo, par exemple. On met des trucs comme ça, là, des espèces de trucs rembourrés.
Oui, c'est ça. À peu près dans tous les arts martiaux.
Un pao, ça veut dire pain en chinois.
D'accord, bah, ravi de l'apprendre. Hein. En même temps, bah, on apprend tout le temps.
C'est ça.
Donc,
j'ai dit oui, pao, ça doit être un truc rond dans lequel on tape.
Donc, c'est des cibles dans lesquelles on peut frapper. Et au début, quand on commence la boxe, moi, mon coach, de son état d'esprit à lui, pour qu'il vous prenne au pao, ça veut dire qu'il prend du temps pour vous, pour vous entraîner. Donc, fallait le mériter.
D'accord.
Et moi, au bout d'un moment, bah, peut-être que je l'ai mérité. Donc, il m'a pris au pao. Et là, quand il m'a pris au pao, la première jambe que j'ai envoyée, c'est comme si j'ai envoyé toute ma vie dedans.
C'est vrai ?
Oui, vraiment.
Wow.
Et mon coach,
Il a ressenti tout ça ?
Il l'a ressenti. Il m'a dit, Kevin, t'as quelque chose en toi. Et voilà, c'est de là que tout a débuté.
D'accord.
Pour moi.
Et c'est avec lui que vous l'avez fait grandir donc, au départ.
Alors,
j'entends vos motivations. Donc, c'est quoi votre première expérience dans un combat en fait, en compétition ? Parce que là, donc, là, vous êtes au début, vous progressez, puis arrive un moment où il y a la compétition. C'est quoi votre première expérience ? Puis comment vous l'avez vécu ?
Bah, moi, j'ai deux premières expériences. J'ai mon premier combat en France, et ouais. mon premier combat en Thaïlande.
J'imagine.
Parce que c'est deux choses différentes, la Thaïlande et la France. Mm-hmm. Parce que la Thaïlande, ils pratiquent plus pour le... C'est un mode de vie, en fait. L'art ouais. martial, c'est fait partie de la culture. Mm-hmm. Et la France, c'est quand même plus un loisir, même si on peut amener à haut niveau...
Bien sûr.
À pratiquer.
L'état d'esprit n'est pas tout à fait le même.
Voilà, c'est ça, exactement. Et pour le coup, moi, mon premier combat en France, au bout de 6 mois, bon, voilà, j'étais un peu insouciant, inconscient même, parce que je ne me rendais pas compte des enjeux, des risques que j'encourais. Donc, je suis monté sur le ring, voilà, comme ça, mm-hmm. avec une détermination, mais sans appréhension ni quoi que ce soit. Mm-hmm. Et il y a mon premier combat en Thaïlande, c'est celui-là que j'aimerais plus vous raconter, parce que c'est une belle aventure qui m'est arrivée là-bas. Donc, moi, je suis parti avec mon petit sac à dos et puis le premier combat, donc j'étais là depuis seulement une journée et je suis parti m'entraîner dans un camp dans le nord de la Thaïlande. Donc c'est très peu touristique, c'est vraiment très authentique, c'est que des Thaïlandais.
D'accord.
Et donc j'étais là depuis seulement une journée et le coach avec qui je m'entraînais passe devant ma chambre. Je mangeais des chips devant ma chambre avec ma copine. Et il me dit « Kevin, tu veux faire un combat ?» Et moi, vu que je disais jamais non, je lui dis « Bah oui, quand ?» Il me dit « Ce soir. » Je lui dis « Ok. » Il repart avec sa moto et il me dit « Ok, je repasse te prendre ce soir. » Et là, le soir arrive et puis je pars au camp, à mon camp. Et là, je vois tous les Thaïlandais qui font des prières autour de moi et tout. Je me dis « Ouah, c'est chaud, machin. » Je me dis « Dans quoi je me suis embourbé ?» Et puis au final, voilà, je suis pas quelqu'un de très stressé de nature, donc je me dis de toute façon, ce qui doit m'arriver m'arrivera. Donc j'y vais. Ils font des prières, tout ça, et j'arrive au combat. C'était au festival de Khon Kaen. C'est une région très pauvre dans le nord de la Thaïlande.
Okay.
Et il y avait un festival où il y avait l'armée thaïlandaise et tout ça. Et puis je monte sur le ring et voilà, ce premier combat, je le gagne par KO.
Okay.
Donc au premier round.
Ah oui.
Donc tous les Thaïlandais un peu choqués parce qu'il y avait beaucoup de parieurs et tout ça.
Oui.
Donc
d'ailleurs, pas forcément à ce niveau-là.
Voilà, ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient pas à ce que je gagne le Thaïlandais comme ça aussi vite. Donc ils l'avaient un peu mauvaise vis-à-vis des paris et tout ça.
J'imagine.
Donc voilà, ça c'était mon premier combat.
D'accord. Vous avez été plusieurs fois champion parce que bon après voilà, l'émission est courte, on va essayer d'avancer dans l'histoire.
Yes.
Dans ces moments de championnat, de titres, qu'est-ce qui a été le plus marquant dans votre carrière? J'entends bien ce premier combat qui est un petit peu étonnant et qui marque déjà votre entrée là-bas. Et il y a eu quoi d'autre comme fait marquant par la suite?
Eh ben, on va dire que mes débuts en Thaïlande, c'était vraiment quelque chose d'inconnu. C'était vraiment ça la chose la plus insolite pour moi, du fait que voilà, vous arrivez dans un territoire hostile, vous êtes tout seul, vous avez personne qui vous soutient réellement, si ce n'est voilà, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, donc vous avez 2-3 personnes qui vous encouragent à distance, mais au fond vous êtes beaucoup seul, donc le combat il est avec vous-même avant tout. Et en chose vraiment marquante que j'ai eue, c'est par exemple bon, mon deuxième combat où je suis revenu et ils m'ont dit qu'il y avait un gars qui voulait m'affronter. Et en fait, bon, quand je suis arrivé, ils m'ont dit non, il veut plus. Du coup, ils ont pris un gars dans le public et il m'a dit bon, lui, il veut se battre avec toi.
D'accord.
Et en fait, ce gars-là, il s'avérait que c'était un militaire qui avait 70 combats dans l'armée thaïlandaise.
Ah oui.
Donc, en fait, c'était pas du tout un novice.
C'est terrifiant, Kevin. Ouais,
il vaut mieux pas le savoir avant, quoi, finalement.
Voilà, c'est ça. Et en plus, vu que ça faisait que quelques jours que j'étais là, parce que j'enchaînais vite les combats, je me battais tous les 3-4 jours. J'avais pas vraiment de temps de récupération et j'étais pris un peu dans le truc. Donc, moi, on me donnait ma chance, j'y allais, quoi.
J'ai bien compris, oui.
Et du coup, le deuxième combat, voilà, je monte et puis... je gagne pas le combat, mais ce combat-là, c'est vraiment ce que je gagne, c'est le respect du public thaïlandais.
Okay.
Parce que vraiment, les Thaïlandais, ce jour-là, ils pensaient que le Thaï, il allait me battre
facilement.
Oui,
il allait manger tout cru, et puis finalement, vous avez
vraiment
très bien résisté, ce qui a donné l'admiration quand même des spectateurs, même si vous n'avez pas gagné le combat. Quoi.
Exactement. Je lui ai tenu tête pendant 5 rounds.
D'accord.
Et c'est ça qui m'a donné au début une petite notoriété dans le nord de la Thaïlande. Et c'est comme ça que vraiment, j'ai pu commencer... mon petit chemin là-bas, quoi, on va dire.
Alors je vois là, on parle des combats, on parle du côté physique, mais
yes.
Y a aussi, j'imagine, un côté aussi de préparation mentale, bon physique aussi. Ça, vous pouvez nous en parler aussi pour s'entraîner, se préparer à ces combats qui sont finalement assez intenses et qui reviennent assez souvent, de ce que j'entends.
Eh bah oui, de toute façon, le physique c'est quelque chose, mais le mental c'est vraiment la boxe. De toute façon, c'est 80% de physique, 80% de mental, pardon. Ouais. Et 20% de physique. Parce que vous avez beau avoir le meilleur physique du monde, si vous n'avez pas le mental, vous ne gagnerez jamais un seul combat. Ça, c'est une chose à savoir. Donc, chaque jour, il faut savoir se dépasser. C'est-à-dire repousser tout le temps ses limites. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir mal, il faut se dire que c'est là que ça commence. Tout ce que vous avez fait avant, ça ne sert à rien. En tout cas, ça, c'est moi, c'est l'état d'esprit que j'ai toujours eu. Pendant tout au long de ma carrière.
Ah, à vous entendre, je ne suis pas vraiment surpris d'entendre ça dans votre bouche. A priori, la détermination, ça a l'air d'être quelque chose d'important pour vous et ça, vraiment, ça ne me surprend pas. Alors, et du coup, il y a cette préparation, on en a parlé. Et dans la préparation, il y a aussi une hygiène de vie aussi, hein, j'imagine, nutrition et tout ça. Enfin, on est fit, quoi, on fait gaffe, quoi. Non ?
Oui, alors bah là, c'est en fin de compte, le corps, hein, c'est comme une voiture. Hein, si vous mettez de l'huile de merde, bah, vous allez péter le moteur.
C'est vrai.
Le corps, c'est la même chose.
J'imagine.
Si vous mettez pas le bon carburant.
C'est imagé.
Ouais, non, mais c'est ça.
Donc,
c'est
il faut ça. Mettre le bon carburant pour durer, quoi.
Ok.
On va dire.
Donc, avant un combat, on mange enfin, on mange différemment, j'imagine.
Oui. Alors, on s'entraîne beaucoup.
Ouais.
On mange peu. Parce que, déjà, il y a aussi la contrainte du poids. Parce qu'il faut savoir que le combat, ça se passe par catégorie
de poids. Oui.
Donc, bien souvent, on s'inscrit dans une catégorie qui est inférieure au poids initial qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc, on a souvent ce besoin d'une perte de poids qui est...
Pour vraiment être à la limite.
Voilà, à la limite. Donc, beaucoup d'entraînement et très peu manger. Donc, tout ça encore, ça s'inscrit encore dans le mental. Où faut le fait qu'il faut repousser ses limites en s'entraînant beaucoup et mangeant très peu.
Des ressources quand même.
C'est ça.
Ok.
Ben moi, ça m'a, je dirais, j'en suis toute, comment on dit, ébahie de tout ça.
Ouais.
Je pense qu'une petite pause musicale va nous faire du bien.
C'est ça, on va.
On va écouter Paper Planes. C'est, alors, je ne sais pas lire le thaïlandais.
Ah mince, tu
Kevin.
N'as pas appris cet été ?
Didier non plus, je ne sais pas.
Non, moi je suis
j'ai
toujours aussi mauvais.
J'ai pas appris cet été, j'étais au Vietnam, souviens-toi.
Enfin, d'accord.
En théorie, en tout cas.
Ok.
On s'écoute Paper Planes.
Alors, on sait que ça bouge, vous allez découvrir tout de suite.
Alors, c'était Paper Planes, un groupe thaïlandais dont je n'arrive pas à lire le nom. Désolée, chères auditrices, auditeurs. Donc, on reprend, Kevin, votre histoire sportive. Et puis, bientôt, On va parler de votre histoire de globe-trotteur avec votre compagne, Marie. Alors, oui, je désannonce et je relance,
oui,
Didier,
vas-y,
c'est
vas-y.
Ce que j'avais dit. Oui, alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui oui, là, je me plante, Didier, en fait.
Ah bon? Pourquoi?
Oui. Non, on devait parler de la nécessité d'une team. C'est toi qui
oui,
t'as posé
ça,
la question.
Oui, c'est ça, une équipe, voilà.
Vas-y.
Une équipe,
oh,
alors, a priori, entre... Ah, oh, pas de souci, oulala, c'est la reprise. Voilà.
C'est la reprise.
Les automatismes ne sont pas encore là.
Non,
donc, justement,
vrai.
On est une équipe ici, mais vous, en boxe, a priori, il y a des grosses différences entre les super teams et puis les gens qui, comme vous, si je l'ai bien compris, étaient plutôt seuls à aller vers cette aventure thaïlandaise.
Exactement. En fait, il y a deux types de boxeurs. Donc, en général, il y a les boxeurs donc, qui évoluent dans le circuit entre guillemets classique. Donc,
ouais.
Vous avez une team avec un manager,
ouais.
Un prof
faut,
de
quoi.
Boxe, un préparateur physique. Mmh. Peut-être même un coach mental pour ceux qui ont des structures plus poussées. Moi, j'ai pas eu de... Moi, ma carrière s'est passée tout à fait différemment sur le fait que moi, en fin de compte, j'ai mis mon petit sac à dos. Et puis bon, bah, je suis parti en Thaïlande. À 20 ans, j'avais mon petit sac à dos, trois slips, trois t-shirts, trois
j'imagine
chaussettes.
Tout au courage et à la volonté. Quoi.
Et puis j'ai déboulé à Bangkok et puis voilà, je suis parti à l'aventure.
Je crois voir le profil de l'aventure. Ouais. Mais c'est bien, ça vous a emmené loin et c'est ça qui est chouette. Ça vous a emmené loin et du coup, ça vous donne aussi aujourd'hui de transmettre ça pour les jeunes qui vous entourent. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil?
Bah, en vrai, oui, moi aujourd'hui, mon but maintenant... Ma carrière sportive étant plus derrière moi, c'est aujourd'hui l'objectif principal, c'est de transmettre ma passion aux jeunes. Évidemment, parce que c'est la suite logique de mon parcours. Après, en conseil que je peux donner, après tout dépend si c'est quelqu'un qui veut se lancer dans une carrière de compétiteur ou qui veut juste pratiquer pour le loisir.
Du loisir, ouais.
C'est deux choses différentes.
Bien sûr.
Donc ça, il faut bien dissocier la compétition du loisir. Mais moi, au préalable, j'ai pas réellement de conseils à donner, si ce n'est d'essayer. Et puis après, les conseils viendront naturellement parce que c'est du cas par cas. Chaque personne a une mentalité différente, un parcours
d'accord.
de vie différent. Donc
alors pour essayer, j'ai bien une petite idée. Je crois qu'il y a moyen d'essayer, non?
Bien sûr, il y a moyen. Alors il y a moyen au Mans, justement,
eh oui,
dans
voilà.
mon club.
C'est là où je voulais vous emmener.
Merci. Donc j'ai créé un club qui s'appelle Muay Thai Street.
Okay.
Qui se trouve au complexe sportif des Glonnières au Mans.
D'accord.
On a un cours tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs.
Et ça reprend quand là?
Et donc on reprend le mardi 3 septembre, donc d'accord. le premier mardi de septembre.
Là c'est l'actualité,
voilà.
C'est la rentrée, les enfants vont chercher à avoir des activités et peut-être qu'ils vont se tourner vers vous quoi.
Et bah moi ça sera avec plaisir d'accueillir tout le monde, hein, tous les habitants du Mans et même ceux qui sont pas du Mans d'ailleurs.
D'accord.
Vous pouvez venir faire
mais
un cours d'essai gratuit.
Mais Didier
du
Mans, hein.
Oui, oui.
Bah justement, c'est pour ça que j'espère que Didier viendra faire un cours d'essai à Muay Thai Street.
Venir voir, comme on l'a déjà fait avec
oui,
d'autres sports.
On viendra.
Avec
on
plaisir,
viendra,
je viendrai voir. Pratiquer,
donc,
c'est autre chose, mais voir. Sans,
on,
avec,
on viendra avec plaisir.
Avec
donc,
plaisir.
Début du cours, 19h30. Venez un petit peu avant
ouais.
Le temps de vous équiper.
Ouais.
Et je serai ravi de vous accueillir.
Allez, promis, on fait ça et on en reparlera à nos auditeurs.
Didier?
Oui.
Je pense qu'on refait une toute petite pause musicale
oui.
avant d'aborder un tout autre aspect de la carrière de Kevin,
d'accord.
c'est sa carrière de globe-trotteur.
Ah oui, une jolie carrière aussi ça.
Une très jolie carrière.
Alors on va écouter notre petite pause
alors,
musicale.
Alors oui, la pause musicale,
c'est quoi,
c'est quoi
oui.
Alors c'est Get You Out, c'est Jox.
D'accord, écoutez.
Et c'est aussi thaïlandais.
Ah ah.
To get you out of my way, hey, hey, right now,
right now,
right now,
right now.
Hey, 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 hey. I need to get you out of my head,
oh my head.
Right now,
right now,
right now. I need to get you out.
Right now.
like a tiger, why I look like a tiger, dear. She know, but no, she might be my like a tiger, dear. So pitch it to me, tearing, she know me, take a knee. For right to me, you tell, right, you know me, tell the tea. Let's end up bring the rook, I'm a real lot of pot. So pink and gang, you couldn't upside, you can't hear all the gang. So don't my customer, sometimes it turns on them. We can't the mom, we can't the Kelly, quite a super function. ที่ต้องมาคอยวิ่งตามใครต้องคอยเช็คอยู่เสมอว่าตอนนี้เธออาการใดแต่ฉันก็ยอมเธอมาตลอดเพราะอยากมีเธอร่วมทางไปแม้ฉันจะเหมือนนกที่อยู่ในกรงแต่เธอทำทุกอย่างได้ตามใจเพราะเธอไม่โคตรจะเอาแต่ใจเลยและบวกกับงี่เง่าปากกระบอก
Alors l'émission est tellement sympa avec Kevin que on va pas profiter de la musique trop longtemps. Vous êtes toujours sur avec Radio Alpa sur Asialogie et on va continuer à voyager avec Kevin, mais cette fois on va pas parler boxe, on va parler road trip, on va parler voyage, parce que là aussi il y a plein de choses à dire.
Oui, c'est vrai, je préfère quand même Kevin à Jox, hein, pour tout vous dire.
Ah oui.
Oui. Oui, oui, je préfère Kevin.
OK. Allons-y alors.
Alors Kevin, qu'est-ce qui vous a motivé donc pour partir en voyage au Vietnam? Et vous n'êtes pas parti tout seul, alors vous allez nous raconter, vous êtes parti avec?
Ben, je suis parti avec Marie, donc ma femme.
Oui.
Donc voilà.
Ben, et pourquoi donc le Vietnam?
Et ben, le Vietnam, parce que c'est un pays qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Et puis ben, parce que j'ai des origines aussi vietnamiennes.
D'accord.
Vis-à-vis de mon père, qui était moitié vietnamien de ma grand-mère. Et mon grand-père, qui est français, qui était policier à la guerre du Vietnam. Donc, c'est des réfugiés politiques.
D'accord.
Donc, je suis moi-même
oui,
25% vietnamien.
Oui, il y a une petite recherche de racines aussi, alors.
Oui.
Ouais, il y a ça. Et puis, il y a le plaisir aussi de découvrir de nouvelles cultures et de voyager.
D'accord. Alors, est-ce que vous aviez planifié votre itinéraire, Kevin, avec Marie? Ou est-ce que c'est Marie qui a planifié l'itinéraire? Comment vous vous êtes organisé?
On va dire ça.
Deux.
C'est plutôt Marie qui...
C'est plutôt Marie.
Qui regarde un petit peu les points, tous les monuments, les incontournables.
D'accord.
Et puis, on s'organise un petit peu notre voyage par rapport à ça.
En fonction de ça.
Exactement.
D'accord. Et est-ce que vous aviez des critères pour choisir des lieux à visiter, à savoir pourquoi? Est-ce que vous avez plutôt visité des temples, plutôt des palais, plutôt des villages particuliers? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous ont guidé dans le choix des incontournables? Parce qu'il y en a beaucoup, des incontournables au Vietnam. Beaucoup de choses à voir du nord au sud. C'est très différent, en fait, en plus, hein, le nord et le sud.
C'est vrai, c'est très différent. Nous, ce qui nous a guidés, c'est surtout notre route. Parce qu'en fait, nous, l'objectif, c'était d'aller à Hanoï, donc arriver à Hanoï dans le nord du Vietnam,
oui.
C'est-à-dire la capitale, acheter une bécane.
Une moto.
Une moto. Fameuse moto. Et j'invite tout le monde à aller voir.
Vous aviez prévu un budget, j'imagine. Vous étiez renseigné avant.
Oui, plus ou moins. Nous, après nos voyages, on achète le billet d'avion et on achète que l'aller. On ne prend jamais le retour.
C'est vrai.
Et on part un peu à l'arrache, même si.
À l'aventure.
À l'aventure. C'est ça, à l'aventure, exactement. Okay. Marie a prédéfini un peu. Les lieux incontournables,
ouais,
et après je veux dire c'est au feeling que ça
se passe. On se laisse porter un petit peu parce que la route va nous offrir.
Voilà.
Et la moto alors, c'était quoi?
Donc la moto, on est arrivé à Hanoï, on a été dans un petit hôtel miteux de la ville, on a rencontré un garçon sympathique et il m'a donné
un vietnamien
exactement, il nous a donné l'adresse d'un gars qui vendait des motos en fait.
Oui.
Et donc je suis arrivé là-bas. Puis moi dans ma tête en plus je savais déjà un peu le type de moto que je voulais et tout ça. Mais en fin de compte quand on est arrivé sur place, c'est pas du tout la moto que j'avais imaginée.
C'était quoi cette moto?
Ouais, c'était une Chinese copy. C'était
copy.
En fait c'était
une petite contrefaçon.
Voilà, ouais. C'est ça. Une Honda Win, mais ça en est une, mais ça en est pas une, si vous voulez.
Mais c'est robuste.
Oui, mais les Chinois font des choses fiables quand même.
Oui, c'est robuste, ça emmène.
Franchement, si vous l'entretenez bien et tout ça, nous, vous voyez, on a fait 4000 km avec.
Oui, quand même.
On a parcouru tout le pays, on a même été.
Oui, 4000 km c'est en moto, c'est quand même.
Ouais,
petite moto en plus, c'était pas
ça.
Un gros truc.
Avec
un
gros les bagages et tout dessus en plus.
Oui. Et puis les routes sont pas forcément excellentes.
Non, elles sont bien quand même, mais pas partout. Ça
pas
dépend.
Partout.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ils ont voyagé à la vietnamienne, quoi, avec sur la moto, bien chargé. Vous avez dû en croiser des très chargés là-bas.
Oui, c'est vrai. Et vous dormiez où, Kevin et Marie?
Eh ben, on dormait soit dans des hôtels qu'on trouvait comme ça sur nos routes, ou alors des fois, on faisait des rencontres et puis on était invité chez des Vietnamiens.
Vous parlez vietnamien?
Non, je bricole quelques mots.
Quand même.
Bonjour, merci.
Mais c'est déjà beau. C'est déjà beaucoup quand on voyage en Asie. Ouais, de connaître ces quelques mots-là, ça ouvre bien des portes justement. C'est vrai.
Ça montre qu'on s'intéresse à la culture.
D'accord. Alors, quelles ont été ou quelle a été la grande difficulté que vous avez rencontrée là-bas ? Est-ce que vous en avez rencontré d'abord ?
Bah, honnêtement, il n'y a pas réellement de difficulté. Moi, je pense qu'en Asie, toute l'Asie du Sud-Est, pour avoir fait la Vietnam, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge, principalement la Thaïlande et le Vietnam, vraiment, il n'y a pas de difficulté parce que c'est très facile de voyager, les gens sont très accueillants. Et en fin de compte, je vais vous dire, le seul petit problème qu'on a eu en 4 mois de road trip au Vietnam, c'est qu'une fois, j'ai voulu voir jusqu'à la moto aller, donc j'ai pas remis d'essence. Et on est tombé en panne d'essence en partant d'une plage.
Ça, c'est incroyable quand même, Kevin. Et alors, vous savez que Asialogie, c'est bientôt fini, Kevin. C'est toujours trop court. On est toujours frustrés quand on vient dans notre émission.
On sera obligé de le réinviter.
On sera obligé.
C'est pas grave.
Pour parler de la Thaïlande,
ouais,
pourquoi
voilà,
pas
c'est
parce
ça.
Que
et d'aller plus
c'est
loin.
Pas trop loin. Oui, alors, quels ont été les moments les plus émouvants de votre voyage ?
Les moments les plus émouvants, bah il y a le nouvel an vietnamien,
donc
qui est pareil en Chine et au Vietnam.
La fête du printemps,
exactement. Je vois que vous êtes une connaisseuse aussi.
Merci.
Donc ça c'est quelque chose de magnifique parce que tous les Vietnamiens sortent dehors, ils font la fête, ils sortent les sonos dehors. C'est vraiment la fête dans les rues. Et là vous
et
êtes.
C'est beau partout.
C'est magnifique, c'est décoré, c'est des lumières, c'est. Faut vraiment le voir pour le. Faut le vivre pour le.
Je suis d'accord avec vous complètement. Oui.
Alors.
C'est l'heure.
Bientôt, c'est l'heure.
C'est l'heure.
Est-ce qu'on peut demander à Kevin, dans les quelques secondes qui nous restent, si on ne peut pas découvrir des choses via YouTube ou ce genre de choses ?
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui,
voilà,
ça va permettre de prolonger un peu. Mais oui, c'était trop court, mais ce n'est pas grave. On peut prolonger l'aventure avec vous comment alors ?
Donc moi, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Kevin Fleury Boxer.
D'accord.
Où je partage un peu mes aventures en faisant des petits... vlog,
des petits films, des petites vidéos
3-4
minutes.
Elles
sont très sympas, je les ai regardées.
Sur le Vietnam, la Thaïlande,
moi aussi, c'est pour
l'Australie,
ça que je vous invite à y aller.
Tous les endroits où j'ai pu un peu passer. Et puis bon, il y a les réseaux sociaux, Kevin Fleury Boxer. Et puis Muay Thai Street sur Facebook pour ceux qui aiment le Muay Thai et qui ont envie de pratiquer.
On viendra. Et puis en plus de ça, c'était vraiment trop court parce que vous avez aussi une autre expérience de vie avec Marie. C'est votre food truck.
C'est ça.
Alors, ça veut dire qu'on
retrouvera
Kevin
et Marie pour de nouvelles aventures sur cette saison 2 d'Asialogie.
C'était
et puis voilà.
C'était super sympa.
Et je serais ravi de revenir vous voir.
Vraiment.
Merci pour l'invitation.
Chouette de rentrer avec vous tous les deux.
Un bon Didier, merci. Bon, Asialogie, c'est fini les amis.
Et
vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et nous réécouter le samedi matin à 9h30. Et bien sûr aussi en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa.
Et on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison.
On est tellement heureux de vous retrouver. On aura plein de surprises cette année.
C'est parti.
Salut.